France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Anna Novion. Vers 19h45, le son du jour, un extrait de La Belle et la Bête de Philippe Glass, arrangé pour deux pianos et joué par Katia et Marielle Labec. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui sera ce soir au Franciscaine de Deauville pour nous faire découvrir l'exposition Zhao Wuqi, les allées d'un autre monde, consacrée au peintre franco-chinois disparu en 2013. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Anthony Thomasson à la prise de son. Bonsoir Anna Novion.
Bonsoir.
Votre film, Le Théorème de Marguerite, sort demain en DVD et Blu-ray chez Pyramide Vidéo. Alors, des problèmes d'agenda m'avaient privé du plaisir de vous accueillir au moment de la sortie du film. On avait pris date, je me rattrape aujourd'hui. Entre-temps, l'interprète de Marguerite et la rhume a reçu le César de la Révolution féminine, César bien mérité.
Ok, franchement, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est absurde pour moi de me retrouver ici avec ça devant moi, là, et vous. Je voudrais juste dire merci à Anna, qui a réalisé le théorème de Marguerite, qui m'a fait confiance à partir de la première minute, qui m'a donné confiance quand j'avais presque perdu confiance, et qui m'a encourager et puis guider à jouer Marguerite, un rôle que je pensais jamais pouvoir jouer en vrai. Et c'est vraiment cette petite Marguerite qui est venue à moi et qui m'a guidée en fait à travers ce film. Merci à vous d'avoir voté. Merci à tous les acteurs qui ont été avec moi dans ce film, Julien Frison, Jean-Pierre Darroussin, Sonia Boni, Dira Zougli, Clotilde Courau, vous étiez vraiment un délice de travailler avec. Merci. Merci. Merci, merci, merci.
Voilà, comme ça, Ella Rumpf, en plus d'être une formidable comédienne, nous donne un peu quelques indications sur ce film, en nous donnant notamment le nom de sa réalisatrice, vous, Anna Novion, et certains de ses partenaires. On va profiter en tout cas de cette actualité pour évidemment en savoir un peu plus sur vous, savoir ouais. Ce qui vous a attiré et mené vers la réalisation, vos sources d'inspiration. Alors pour ces deux derniers points, on peut imaginer aisément qu'avoir un père directeur de la photographie vous a sans doute donné le goût du cinéma, que d'avoir une mère suédoise et restauratrice d'œuvres d'art vous a sans doute aussi donné le sens du cadre et des goûts pour la peinture, ça on va y revenir, mais aussi nourri l'écriture de vos deux premiers longs métrages qui se passent pour grande partie en Suède. Ce sera le cas aussi, on évoquera des courts métrages, deux d'entre eux. Mais travailler dans le milieu du cinéma, Anna Novion, est-ce que c'était une évidence qui remontait à l'enfance ou est-ce qu'il y a eu d'autres désirs avant cela?
Je pense qu'en fait, oui, j'ai évidemment baigné dans le milieu depuis très jeune. Voilà, j'allais sur des plateaux, je m'en rappelle, de Jean de Florette, Manon des Sources, où mon père était assistant caméra. Et donc, j'avais passé pas mal de temps là-bas et sur les genoux d'Yves Montand, qui me racontait des histoires, enfin voilà, des souvenirs super forts. Mais en fait, l'envie de faire du cinéma est étrangement venue assez tard. Je dis étrangement parce que c'est comme si j'avais toujours voulu faire ça, mais que pour poser des mots, ça a mis du temps. En fait, j'ai eu une enfance où j'étais plutôt assez solitaire, assez dans mon coin, assez renfermée, et des parents quand même qui parlaient beaucoup de, en effet, de cinéma, de peinture. Et moi, ça m'ennuyait en fait terriblement. Ça m'ennuyait. On passait notre temps à aller voir des expos, mon père me montrait des films de Godard, mais genre histoire du cinéma à 10 ans, j'étais plutôt, voilà, donc tout, Rome, ville ouverte, je me rappelle de Rossellini à 10 ans, et j'ai eu une sorte de rejet en fait, presque, de tout ce qui était de l'ordre de la création, et pour autant, J'écrivais des histoires. J'ai commencé à me mettre à écrire des scénarios, en fait, à 10 ans.
Des scénarios, ouais. pas des histoires.
Scénarios. Vraiment une envie de le filmer. À 10 ans, j'avais écrit un premier scénario qui s'appelait « Le riche et le pauvre ne sont-ils pas amis ?» Voilà, c'était très ambitieux. ça n'a jamais donné quelque chose, mais en tout cas, il y avait vraiment... déjà poser des histoires et d'imaginer comment filmer ça. Déjà très, très tôt, en fait. Mais sans me dire que ça pouvait être un métier. C'était comme si c'était tellement merveilleux à faire que ça pouvait être qu'un hobby. Ça pouvait pas être un métier, en fait. Voilà. Et en fait, moi, j'ai commencé à aimer le cinéma plutôt... par le divertissement, vraiment. C'est en regardant plutôt des grosses comédies que je me suis mise à aimer le cinéma. J'adorais Madame Doubtfire, j'adorais Tutti, j'adorais Les Visiteurs, j'adorais Le Père Noël est une ordure. Enfin, c'est vraiment comme ça que je me suis mise à aimer le cinéma. Et je crois qu'il y a quand même un film qui a quand même changé quelque chose. C'est en regardant... c'est ma mère qui m'avait emmenée au cinéma voir Contes d'été de Romère. Je devais avoir 15 ans, je pense, peut-être un peu plus, ou peut-être un peu moins, je ne sais plus. Mais en tout cas, quand même... et là, je me suis dit, j'adore comment ce cinéaste décortique tous les sentiments. Et je me suis dit, ça m'a vraiment... Voilà, là, je me suis dit, tiens, ça me donne envie vraiment de peut-être en faire un métier. Et après, il y a eu Jacques Rosier. C'était des cinéastes comme ça qui m'ont vraiment donné envie de faire ce métier. Mais c'est venu tard, en fait. C'est pas le cinéma qui m'a donné envie de faire du cinéma, en fait.
Alors, ça vous empêche pas quand même d'aller suivre des études de cinéma à l'Université de Saint-Denis. La pratique et la théorie un DEA à Jussieu, mais la pratique, c'est très tôt, puisque, si mes sources sont bonnes, elles généralement le sont, le premier court-métrage, Frédéric est française, qui se passe donc déjà en Suède, vous faites alors que vous n'avez que 19 ans.
Ouais, c'était mon premier court-métrage. J'avais emprunté la DV de mon père, qui avait une DV à l'époque.
Donc, petite caméra numérique.
Petite caméra numérique, tout à fait. Et j'ai utilisé le son caméra et j'ai utilisé les gens qui étaient en Suède dans ma maison de famille. Donc toute la famille y passe et les amis y passent. Et j'ai écrit une histoire, voilà, assez simple. Et je me rappelle, j'avais eu le prix de la révélation au Festival de Sens, qui est vraiment un petit festival. Et
ils avaient le nez creux.
Ils avaient, en plus, trouver ce prix pour le film. Enfin, et je crois que c'est un truc qui m'a donné, parce que franchement, le film est très fragile, hein. Mais, enfin, voilà. Et c'est marrant parce que celui qui l'a monté, c'est Laurent Sénéchal, le monteur d'Anatomie d'une chute.
On espère qu'il aura un Oscar dans quelques jours.
On l'espère vraiment. Et on a émis des noirs pendant le film, des noirs, mais qui duraient pas une seconde, c'était des noirs qui duraient 10 secondes. Enfin, c'était à la limite de l'expérimental. Bon, c'était un peu n'importe quoi, franchement.
C'était votre côté godardien.
C'est ça.
Pour faire plaisir à papa.
Exactement.
Alors, il y a deux autres courts-métrages, après, et puis un premier long, Les Grandes Personnes, qui sera présenté à Cannes en 2008, dans la semaine de la critique. On s'était rencontrés à cette occasion sur cette antenne, à cette époque-là. C'est un film dont l'action, c'est une... Évidemment, sur une île suédoise, dans l'archipel de Göteborg, dans lequel vont se rencontrer quatre personnes qui, a priori, ne devraient pas se rencontrer, c'est-à-dire un père et sa fille qui viennent en vacances, sauf que la maison qu'ils sont censés louer, qu'ils louent, est en fait occupée par sa propriétaire et une de ses amies. Il va falloir cohabiter. Tout ça a été donné un film plein de grâce, très solaire, et puis une très belle entrée en matière. Et je me demandais, Anna Novion, si vous aviez eu l'occasion de le revoir récemment.
Non, ça m'arrive, hein, en plus de revoir mes films. Enfin, je ne fais pas partie de
certains... Vous n'avez pas fait tant que ça, c'est le troisième long-métrage.
Oui, mais bon...
Non, mais demandez quel regard vous pouviez avoir sur ce premier long, qui remonte quand même dans plus de 15 ans maintenant.
Un regard vachement affectueux, en fait. Hein, de toute façon, un premier film, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la grâce, quoi, qu'on a l'impression parfois qu'on ne pourra jamais retrouver. Quelque chose qui est une forme de grâce naïve. Il y a de la naïveté aussi dans un premier film, mais c'est cette naïveté qui rend les choses gracieuses.
Anaïs de Moustier est à l'affiche de ce film, Les Grandes Personnes, aux côtés de Jean-Pierre Daroussin, de Judith Henry et de Lia Boysen. On va écouter Anaïs de Moustier quand elle était venue dans cette émission, c'était en novembre 21.
C'est vrai que j'ai peut-être un truc de caméléon. J'arrive pas avec mes gros sabots dans un projet, j'ai plaisir à me nourrir des autres, en fait. Et c'est vrai que le cinéaste... c'est quasiment ce qui m'intéresse le plus. Je m'en rends compte, c'est vraiment la discussion avec le cinéaste. Enfin, et sa manière de parler de cinéma, de parler du film qu'on va faire, le projet, quoi. Parce qu'en fait, un film, le temps du tournage, c'est un temps, mais avant, il y a tellement d'étapes qu'on entre vraiment dans le monde, dans la folie parfois de quelqu'un et dans ses obsessions, parce qu'un cinéaste c'est quelqu'un d'obsédé, c'est quelqu'un de souvent névrosé, souvent passionné, enfin voilà tout ce qui va avec et qui fait que ce sont des êtres humains quand même vraiment passionnants, très riches, et que moi comme actrice et comme personne en fait, j'ai du plaisir à les rencontrer et j'ai du plaisir à les découvrir et en effet à d'un coup me faire leur vecteur et donc à m'adapter.
Anaïs de Moustier qui trouvait un de ses premiers très beaux rôles dans ce film Les Grandes Personnes, mais alors à l'écouter je me demandais quels étaient selon vous au moment de ce tournage de premier long métrage vos obsessions à Anna Ovion.
Pour le premier long, parce que on évolue hein, les obsessions elles changent vraiment beaucoup.
Ce sera la question suivante.
Déjà
vous évoluez, mais il y a quand même des thématiques.
Oui, il y a des thématiques communes bien sûr. Je crois qu'il y avait quelque chose que je me disais tous les matins sous la douche, je me disais ne jamais rien lâcher. C'était vraiment quelque chose moi j'avais 27 ans quand j'ai fait ce film, j'étais quand même très jeune et j'étais un peu impressionnée, j'étais presque la plus jeune du tournage. Il y avait Anaïs qui était encore plus jeune, mais il y avait quelque chose je me disais il faut que je ne lâche rien, faut que j'arrive à emmener mes comédiens à l'endroit où ils doivent aller et sans que je renonce, il faut qu'il n'y ait pas de compromis, pas de concession. C'était quelque chose que je me suis dit et en fait, dès qu'on en fait une toute petite, en montage, ça se ressent quoi. C'est terrible. Et je crois que c'est une des choses. Et c'est ça qui est difficile parce que parfois on se bat, on est vachement seul sur un plateau en fait. On est très entouré parce qu'on a toute une équipe tout ça, mais en fait. C'est l'obsession dont parle Anaïs. On est presque seul avec cette obsession. Mmh. Ouais. Mmh. Et c'est ça qui est compliqué. C'est qu'à un moment, il faut toujours réussir à entraîner tout le monde avec vous, sans qu'ils aient l'impression que vous êtes, un peu capricieux ou justement trop obsessionnel, trop névrosé, trop quelque chose qui fait qu'à un moment donné, les gens peuvent être en rupture avec vous. Et moi, je crois qu'on fait des films si on est tous les uns avec les autres, si on est tous en cohésion. Donc, c'est réussir à les faire rentrer dans votre obsession. C'est peut-être le travail, un des trucs que j'ai compris aussi assez tôt. Ouais.
Alors, il y a un deuxième long qui suivra en 2013, Rendez-vous à Kiruna, ça se prononce Kiruna ?
Kiruna, oui.
Kiruna. En Suède, donc, encore une fois encore avec Jean-Pierre Darroussin, cette fois-ci dans un rôle moins sympathique. On va voir que ça ne s'arrange pas dans le théorème de Marguerite. donc, retourné en Suède, proposé à Jean-Pierre Darroussin un rôle dans lequel on l'avait moins vu à l'époque. Et on va en parler, mais côté formel, j'évoquais tout à l'heure la profession de votre mère dans le monde de l'art et de la peinture. Et nous, Parisiens, Français, avons vraiment eu l'occasion de découvrir un peintre danois, important pour vous, qui est à Merseuil. Grâce à une exposition au musée Jacques Marandré, il y a 4 ou 5 ans, tournant Les Grandes Personnes, vous aviez en tête, disiez-vous, Anna Ovion, ses intérieurs un peu vides, ses femmes vues de dos. Pour Rendez-vous à Kiruna, vous avez notamment cité l'influence d'Edward Hopper. La peinture, est-ce que ça reste pour vous quelque chose qui structure l'imaginaire autour de l'écriture d'un film?
Ah oui, vraiment. Je pense qu'en fait, le fait d'avoir quand même une mère qui était travaillait dans la restauration des œuvres d'art à Beaubourg fait que quand même. Et puis voilà, des parents, comme je disais au début, qui m'emmenaient quand même au musée tout le temps. Donc même si à l'époque ça m'ennuyait, on enregistre beaucoup de choses en fait, malgré tout. Et moi, je vais tout le temps, avant de tourner, je vais tout le temps voir beaucoup de musées, voir beaucoup d'expositions. Parce que c'est quelque chose qui m'inspire pour les couleurs, pour les lumières. Ça fait poser plein de questions, en fait, sur les couleurs, sur même les costumes, en fait. Je peux autant être inspirée par une peinture, de Véronèse que je vais voir au Louvre, comme une peinture de Bonnard ou de Matisse. Aussi les lumières, est-ce que c'est des lumières qui sont naturelles ou est-ce que c'est des lumières que le peintre, que c'est une lumière qui n'est pas naturelle, qui semble l'être mais qui ne l'est pas. Les entrées de lumière, les contrastes. Est-ce qu'on est sur des tons pastels? Là, j'ai découvert, par exemple, j'étais à New York et j'ai découvert un peintre qui s'appelle Robert Redd. Et c'est vraiment magnifique, c'est des couleurs pastels. Et je me suis dit, ah ben, voilà, je sens que lui, il peut m'intéresser pour le prochain. Enfin, voilà, c'est des choses, en fait, qu'on pressent et qu'on enregistre. Et puis, plein d'inspiration. Et moi, j'ai vraiment besoin de beaucoup me nourrir avec la peinture pour faire des films.
On va parler de, et on va découvrir votre choix musical dans un instant, mais pour rester justement sur cette thématique des sources d'inspiration, est-ce que la musique, ça occupe aussi une place, alors, d'une part dans votre vie à La Novion, mais aussi est-ce que ça peut être un moteur, une mise en condition pour l'écriture ?
Ouais, quand j'écris, quand je coécris, souvent, même avec mon scénariste Mathieu Robin, souvent on peut échanger comme ça des musiques, on se refile des playlists de temps en temps pour des fois pour faire comprendre un sentiment. Je peux lui envoyer une musique en lui disant voilà, j'aimerais bien que le personnage y ressente ça et une musique qui va raconter qui où il va y avoir une âme qui peut aider tout d'un coup à faire comprendre des choses que parfois on a du mal à faire comprendre avec les mots. Quoi.
Vous le faites avec vos interprètes aussi, parfois ?
Oui, beaucoup. Par exemple, pour le Théorème de Marguerite, j'ai fait écouter beaucoup de musique à Ella et à Julien Frison aussi. Il était très demandeur, Julien, que je lui fasse écouter. Alors, j'avais une playlist en fait que je faisais partager. Mais je leur fais aussi partager justement de la peinture, beaucoup de choses en fait. J'aime beaucoup partager en fait toutes mes sources d'inspiration. J'ai l'impression que plus je livre toutes mes inspirations, plus les gens vont pouvoir rentrer et plonger dans mon univers, quoi.
Alors, Jockerman de Bob Dylan, c'est dans quelle playlist, ça, Nana?
Ça, c'est dans la playlist des souvenirs. C'est en fait, c'est ma maman qui mettait tout le temps Jockerman, cette chanson, quand on était en Suède, tous les étés, quand j'étais petite et puis adolescente. Et voilà, et comme je lui ai dédié le film, elle est décédée il y a 9 ans maintenant. Et c'est une chanson, quand je l'écoute, j'ai l'impression d'entendre... j'ai l'impression qu'elle n'est pas loin. C'est comme si elle vibrait à côté de moi quand j'écoute cette chanson.
On écoute cette chanson de Bob Dylan, Jockerman. So far. se laisse encore un peu bercer par Bob Dylan pour poursuivre cet entretien à Lanovion, mais revenir sur votre parcours. Et on remarque quand même, bien obligé, qu'il s'est écoulé 10 années entre votre deuxième et troisième long métrage. Alors on va revenir sur la genèse du théorème de Marguerite, mais vous n'êtes pas resté inactif, bien au contraire. D'abord, vous avez eu un enfant, ce qui est quand même une très belle œuvre. Mais vous avez aussi fait partie de la belle aventure du Bureau des légendes, la série créée et pilotée par Éric Rochand. Il faut dire que Rochand, vous connaissez depuis que vous êtes toute petite.
Hein. Oui.
J'ai un petit peu fouillé, mais votre père a travaillé sur son premier film, à Rochand, Un monde sans pitié, sur pas mal de ses films suivants. Pour autant, hein, on sait bien que Éric Rochand est quelqu'un de très exigeant en tout domaine et que s'il vous a choisi, c'est pour vos qualités propres de réalisatrice qui vous a embarqué dans cette aventure du bureau. Vous avez réalisé des épisodes pour la saison 4 et pour la saison 5. Qu'est-ce que vous avez retiré, vous, de cette expérience particulière d'être une de celles qui filment une série ?
Oh ben ça a été une expérience absolument formidable parce que en fait ça m'a permis d'ouvrir des portes que je n'avais jamais ouvertes avant. Parce qu'en fait, il faut l'exercice, parce que c'est un peu un exercice, je dirais, où il faut rentrer un petit peu dans la tête d'Éric Rochand et de filmer comme on croit qu'il aimerait. Comme il aimerait qu'on...
Que ce soit filmé.
Tout à fait, voilà. Mmh. Et du coup, on se retrouve à regarder les films que lui aime, sa filmographie, ça... Et on se met, du coup, à prendre du plaisir et à oser faire des choses que finalement, étrangement, on n'ose pas forcément pour soi. Et moi, ça m'a décomplexée à plein d'endroits. Et je crois que ça m'a vraiment aidée pour, justement, le théorème de Marguerite. Parce que du coup, Éric Rochand étant beaucoup plus inspiré par un cinéma américain, un cinéma où peut-être la mise en scène est un peu plus voyante que dans un cinéma qui, moi, était celui qui jusqu'alors m'inspirait beaucoup, qui est un cinéma, le cinéma français ou même un certain type de cinéma asiatique qui travaille beaucoup sur des cadres larges, quelque chose de...
Sans ostentation.
Exactement. Voilà, de plonger dans d'autres références m'a permis d'ouvrir des portes que j'ai trouvées. En fait, j'ai pris un vrai plaisir et je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'ouvrirais pas ces portes-là pour moi, en fait, pour mes propres films.
Vous avez fort bien fait. Mais justement, peut-être qu'il y a un point qui peut nous amener, qui va nous amener au théorème de Marguerite. Mais écoutons Éric Rochand parler de la saison 4 du Bureau des légendes.
J'entends parler de cyberguerre, de cybersécurité, j'entends dire que derrière telle attaque informatique, il y a les Russes, il y a le FSB, et franchement, à chaque fois que j'entendais ça, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, je me suis intéressé à cette question, et donc on l'a abordé dans la saison 4, et du coup, j'ai découvert un monde incroyable, un monde vraiment secret. Évidemment, c'est le challenge et le défi, c'était de filmer ça. Comment filmer le cyber? Puisqu'à priori, le cyber, ça, c'est invisible. Hein. Alors, ce qui est pas mal, c'est que derrière le cyber, il y a toujours encore, pour l'instant, des gens. Le jour où ça sera l'intelligence artificielle qui codera elle-même, là, ça va être compliqué à filmer, parce que derrière les machines, il y aura des machines.
Bah,
ça va être plus compliqué. Mais pour l'instant, on a de la chance encore, il y a encore des gens. Et en fait, le cyber repose encore sur des génies, sur des cerveaux, sur des geeks. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le renseignement humain. C'est ça qui est filmable. C'est là-dessus qu'on verra, parce qu'à travers le renseignement humain, on parle des humains. Voilà. Je suis pas. Alors, un jour, on fera peut-être des films pour les machines, pour émouvoir les machines, et à ce moment-là, on ne parlera que du renseignement numérique.
Alors, comment filmer le cyber ? S'interrogeait Éric Rochand. C'était en effet un des grands enjeux de cette saison 4 du Bureau des légendes, dont vous avez filmé et réalisé plusieurs épisodes à Lanovion. Alors, comment filmer les mathématiques, c'est quand même un sacré défi, celui posé par le théorème de Marguerite. Est-ce que l'expérience du bureau, là, très concrètement, vous a servi?
Pas tellement, en fait, pour les mathématiques. Non, en fait, il y a quelque chose aussi que je voulais dire par rapport au Bureau des légendes. Il y a une zone qui dans laquelle je me sentais très bien, c'est justement pour la direction d'acteurs. Parce que justement, c'est des personnages qui passent... leur temps à vivre des choses absolument hallucinantes. Voilà, il est tout le temps en question de
vie ou de mort. Hein.
Voilà, exactement. et par ailleurs, il y a ce truc que dit souvent Eric, poker face, ne jamais montrer ce qu'on ressent, etc. Et donc, et en même temps, si on filme des comédiens, des personnages où qui ne ressentent rien, ça n'a pas grand intérêt. Et si on a l'impression qu'ils sont trop remplis d'émotions, on ne va pas y croire non plus, vu que leur métier impose justement une stature qui fait qu'on cache beaucoup de choses. Et donc, c'est cette zone de jeu, de percevoir qu'il y a une multitude d'émotions qui les traversent, et en même temps, ils gardent tout le temps cette tête froide. Et je crois que c'est ça, ça m'a peut-être servi pour trouver Marguerite avec Ella Rumpf. Parce que c'est cette zone où il fallait qu'on sente que Marguerite était habitée par énormément de sentiments, d'émotions, de vulnérabilité, et qu'en même temps, elle a une carapace. Mais bon, dans tous mes films, les personnages ont des carapaces. C'est un truc qui revient quand même très souvent, qui revient à chaque fois. Et voilà, et Marguerite, elle a cette carapace. Mais bon, si on montre que cette carapace, on ne peut pas accéder à elle, quoi. Et voilà. Et ça, c'est une chose que j'ai pris beaucoup de plaisir dans le bureau des légendes. Et je pense que ça m'a aidé pour la direction d'acteur, peut-être. Mais après, je pense que là où il y a quand même une grande différence, c'est que pour ce film-là, j'ai vraiment cherché à ce qu'on voit la jubilation des acteurs qui jouent leur personnage. Et de m'écarter d'une forme de réalisme. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, je pense, que j'ai vraiment cherché pour le théorème de Marguerite.
Alors Marguerite, donc, c'est au départ une brillante élève en mathématiques à l'ENS. Quand le film débute, elle doit donc terminer une thèse, elle doit exposer le résultat de cette thèse devant un parterre de chercheurs. Les choses ne se passent pas comme prévu. Un peu prise en défaut, on va dire ça comme ça. Je ne vais pas en dire trop pour ne pas divulgâcher, mais donc il va falloir qu'elle relance ses recherches. Elle veut le faire seule. Mais quand même, on se demande, je m'arrête là vraiment sur ce point de départ, parce qu'il faut vraiment découvrir ce film si on ne l'a pas encore vu avec le moins d'informations. Moi, je préfère, c'est toujours ça. Mais quelle drôle d'idée quand même de faire un film dont l'héroïne passe quand même le plus clair de son temps à recouvrir toute surface possible de craie avec des formules mathématiques auxquelles 99, je sais pas combien, les spectateurs ne comprennent rien, même si j'ai bien lu que toutes les formules écrites dans votre film sont de vraies formules mathématiques. Ça naît comment, l'idée de ce film ?
Oh, ça a été en fait tout un cheminement. En fait, le film a été très long à s'écrire et finalement, toutes ces années d'écriture m'ont permis. Enfin, c'est comme si j'étais devenue moi-même Marguerite, quoi, à chercher ma conjecture, quoi, à chercher mon théorème. En fait, au tout début, il y avait une envie de raconter une période que j'avais traversée où j'avais été malade autour de 20 ans et où j'avais dû rester isolée chez moi pendant à peu près 6 mois. Et lorsque j'ai guéri, je m'étais sentie très différente par rapport aux gens de mon âge. Je m'étais sentie vraiment en décalage et j'avais pas du tout l'impression de pouvoir partager l'insouciance que normalement on a quand on a 20 ans. Et c'est vraiment en me souvenant de tout ça que j'ai eu envie d'écrire le film. Et puis je me suis dit, mais comment retranscrire, comment raconter ça ? Et je me suis intéressée aux grandes écoles assez vite. J'ai jamais fait en plus de grandes écoles, mais je me suis dit, a priori, c'est peut-être des gens qui travaillent comme ça d'une manière un peu isolée, qui sont un peu enfermés, coupés du monde, et qui, pareil, de la même manière, le travail les isole et fait qui ne partagent pas non plus peut-être cette insouciance. Et en fait, au début, j'ai rencontré des littéraires et en fait, ils sortaient, ils allaient au cinéma, enfin bon, ils allaient en boîte où ils rencontraient beaucoup de monde, etc. Et finalement, au fil des rencontres, je me suis mise à rencontrer des mathématiciens. Et là, il y a vraiment un monde qui s'est ouvert à moi. Et il y a cette rencontre qui a été absolument vraiment importante et fondamentale pour le film, c'est ma rencontre avec Ariane Mézard, qui est une des rares mathématiciennes. Et, et rare mathématicienne française.
Dans un monde d'hommes.
Voilà, dans un monde vraiment très masculin. C'était d'ailleurs la seule fille de sa promo, etc.
Marguerite, oui, la seule fille de sa promo.
Ouais, ouais, et Ariane Mézard aussi. D'accord. Et tout ce que m'a raconté en fait Ariane Mézard, c'est très bizarre. J'ai eu l'impression qu'on a été en fait comme pluguées l'une à l'autre. C'est comme dans Avatar, quoi. J'ai eu le sentiment de partager quelque chose de très intime avec elle très vite. Et en fait, la manière dont elle me parlait de mathématiques, j'avais vraiment le sentiment qu'en fait, elle me parlait de mon métier. Et c'est là où, progressivement, et c'est vraiment avec mon scénariste Mathieu Robin qu'on s'est dit, mais il y a vraiment un film à faire, qui est un film de quête, et un film qui ferait un parallèle entre la création mathématique et la création artistique. Et en fait, je crois que j'ai réussi à filmer les mathématiques, ce qui m'a permis de filmer les mathématiques, en fait, c'est vraiment de regarder Ariane Mézard, de la regarder et d'éprouver toute sa sensibilité, toute sa passion, toute son abnégation, tout ce qu'elle donne, en fait, pour les mathématiques, c'est un don d'elle-même, quoi. Et je trouve ça super beau de voir des gens qui se donnent pour une passion, et c'est vraiment son cas. Et je crois que c'est vraiment la manière dont elle me parlait des mathématiques qui m'a tellement émue et qui m'a donné la force et qui m'a chargée pour pouvoir, moi, filmer les mathématiques.
On va écouter, Ariane Mézard, un court extrait d'une vidéo de présentation de son travail.
La géométrie arithmétique consiste à résoudre des équations sur des objets géométriques. Donc, mes principales contributions sont des conjectures. Donc, une conjecture, c'est un défi lancé aux mathématiciens pour ouvrir l'imagination, pour créer de nouvelles techniques. Et ça permet de faire de grandes avancées. Donc, par exemple, lorsqu'on imagine qu'un homme marchera sur la Lune. Donc, le résultat le plus connu, je l'ai obtenu avec Christophe Breuil. Il s'agit d'une conjecture qui relie deux objets mathématiques qui, a priori, n'avaient rien à voir. Il s'agit des représentations galoisiennes péadiques et des formes automorphes. La matière première de notre métier sont les idées. Et les idées se créent avec les discussions, avec les rencontres. Donc on voyage beaucoup. Rien que cette année, j'aurais parcouru 4 continents, j'aurais rencontré des centaines, voire des milliers de mathématiciens en Inde, au Brésil, en Allemagne et aux États-Unis. Aux États-Unis, je vais passer 6 mois, de janvier à juin. J'y retourne quasiment tous les ans. C'est un endroit où il y a une concentration exceptionnelle d'experts. Et donc, c'est un endroit magnifique pour faire sa recherche. Lorsque des mathématiciens me rencontrent pour la première fois, qui découvrent que c'est moi le Mézard de la conjecture de Breuil-Mézard, qui est maintenant une conjecture qui est vraiment très connue, ils sont surpris, voire déçus. C'est une femme.
Cette voix très très douce d'Ariane Mézard est complètement hypnotique. J'ai compris le quart du tiers du dixième de ce qu'elle disait quand il s'agissait de vraiment mathématiques, mais en effet, on a bien entendu, bon, d'une part, cette misogynie présente dans ce milieu-là, mais on s'est entendu que c'était une histoire de rencontre quand même, les mathématiques. Et c'est aussi l'histoire de ce film que l'histoire d'une rencontre. Alors, on commence à voir régulièrement Julien Frison à l'écran. Les habitués de la Comédie française le connaissent bien depuis quelques années. Maintenant, il est même devenu le 541e sociétaire de l'institution au mois de décembre dernier. Félicitations à lui, c'est mérité. Mais est-ce que c'est au cinéma ou sur les planches que vous l'avez remarqué, vous, Anna Novion ?
En fait, je ne le connaissais pas, j'avoue. Hein. C'est vraiment par la directrice de casting. Mais je dois dire que je l'ai vu en photo j'ai tout de suite senti que son physique était juste par rapport au film et allait bien aller avec Ella. Parce que, évidemment, quand on fait un casting, on compose comme un tableau, encore une fois. C'était assez drôle parce que c'était pendant le confinement que je l'ai rencontré et il est arrivé chez moi, j'ai ouvert la porte et j'ai su que c'était lui. Mais ça m'a fait pareil avec Ella, en fait. Mmh. C'est assez étonnant. J'ai vraiment eu des coups de cœur, mais une intuition très forte que c'était les bonnes personnes pour le film.
Et puis, j'évoquais Jean-Pierre Darroussin qui apporte, comme toujours, hein, la subtilité de son jeu à son personnage. Alors, dont on ne sait jamais, ou moi je n'ai jamais su, si on doit le respecter, le détester, croire en son bon sens, au contraire le suspecter de manipulation, ce qui est du coup un régal aussi, hein, parce qu'on... Il est insaisissable. Je ne dévoile pas un secret en disant que vous êtes proche de lui dans la vie, mais est-ce que ça tempère votre direction d'acteur avec lui ou au contraire, ce que je pense, ça vous permet d'aller chercher dans des endroits peut-être plus exigeants, plus différents pour lui?
Oui, évidemment, on se connaît très bien. Et non, je pense que je sais qu'il peut tout jouer et je sais que du coup, je peux m'amuser. Voilà.
Et lui, il est partant.
Pour... Et lui est totalement partant. Et puis, en fait, ce qui est assez... ce qui est bien dans la direction d'acteur avec lui, c'est qu'en fait, la direction d'acteur commence au début du projet, en fait. Parce qu'on en parle tellement que, du coup, il suit toutes les versions du scénario, il suit toutes les modulations des personnages. Donc, en fait, le personnage infuse en lui depuis la jeunesse du film. Donc, sur un plateau, c'est quelqu'un que je dirige très peu. Parce qu'il y a un moment, il faut aussi que je lui laisse un peu de liberté. Et voilà. Donc, mais c'est amusant. Moi, j'aime. Oui, j'ai tellement l'habitude en fait de le voir au cinéma, dans les personnages sympathiques, etc., que j'ai envie de lui faire jouer autre chose aussi. Sinon presque j'ai envie, pour un personnage sympathique ou quoi, dans ces cas-là, j'ai presque envie de prendre un autre comédien. Quoi. J'ai envie de lui faire jouer quelque chose de différent, quoi. Le voir à des endroits où je l'ai jamais vu, quoi.
Ouais, et c'est encore une fois très très réussi. Mais alors. C'est Ella Rumpf qui a donc reçu ce César de la révélation féminine, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Comment est-ce que vous l'avez dirigé? Quelles clés vous lui avez données? Est-ce que pour vous, ça passe par beaucoup de discussions en amont, par des questions qu'elle avait à vous poser?
Ah oui, ça passe par énormément de discussions. En plus, c'est un personnage, enfin c'est un rôle très très difficile, hein, vraiment. Elle a travaillé quand même 4 mois avec Ariane Mézard pour apprendre à écrire ses équations. En plus, moi, je voulais pas couper. Je lui avais dit, je veux vraiment que tu apprennes toutes les équations. Je ne couperai pas dans le plan pour te faciliter les choses. Donc, elle devait apprendre vraiment plusieurs lignes de calcul et d'équations par cœur. C'est un travail, c'est comme apprendre une langue étrangère, quoi. Enfin, ça revient un peu, ça revient
largement,
à ça.
Oui.
Voilà. Et en fait, je pense qu'il y a des rôles qui se trouvent plus ou moins vite, en fait, hein, suivant les personnages qu'on écrit. Et ce rôle-là étant compliqué, je savais qu'il fallait qu'on discute énormément. Puis malgré tout, j'ai mis en scène une pièce avec Jean-Pierre Darroussin qui s'appelait Rimbaud en feu, et on a passé 4 mois à répéter, et c'était pendant le confinement, ça. Et en fait, j'ai compris aussi le plaisir que peut-être de passer un temps, une sorte de laboratoire de discussion sur qui est le personnage et d'aller au bout, enfin. D'aller vraiment au bout et au bout des choses et même jusqu'où on peut aller, quoi, jusqu'où les discussions peuvent nous mener. Et pour ce personnage de Marguerite, c'était absolument essentiel d'avoir ce temps avec Ella. Et j'ai eu de la chance parce que Ella partage aussi cette manière de travailler et aime vraiment ça. Elle aime, mais on a beaucoup répété, mais on a surtout discuté. Donc on avait des rendez-vous toutes les semaines. Pendant pareil 4-5 mois, et à discuter des journées entières, à discuter de qui est Marguerite. Et c'est la première fois que j'ai autant eu envie d'entendre, elle, sa version de Marguerite. Parce que c'est comme si je sentais que Marguerite devait être un mélange entre elle, moi, et finalement aussi avec Ariane Mézard. Et finalement, Marguerite, c'est Ella, c'est Ariane Mézard et c'est moi, quoi. Et c'est vraiment, on a fait notre pyramide de Goldbach à toutes les trois. Et puis, il y avait des moments, on sentait qu'il fallait faire venir d'autres personnages dans nos discussions. Donc, des fois, on faisait venir Sonia Bonny, Julien Frison, Jean-Pierre Darroussin, on les faisait venir dans nos conversations comme si on les invitait un moment et puis après ils repartaient. Mais
oui, parce qu'elle n'est pas la même selon qu'elle est avec sa coloc, avec son prof, avec un autre jeune chercheur.
Exactement. Mmh. Et quand on allait chercher ces zones-là du personnage, et ben on se disait, ben là c'est le moment de faire intervenir tel comédien dans les discussions. Et puis je la faisais aussi beaucoup marcher dans mon appartement parce que la posture était quelque chose de très important. Au début, elle a vraiment les épaules très rentrées, puis progressivement, c'est quelqu'un qui, en s'émancipant, va prendre la place, quoi. Et du coup, je la faisais beaucoup marcher dans l'appartement. Je lui faisais, enfin voilà, on a vraiment eu notre petit laboratoire à toutes les deux qui ont permis à Marguerite de pousser entre nous deux et de se mettre à vivre, quoi.
Alors, dernière question pour une réponse qui pourrait être très vaste, mais je parlais de ces séances de recherche mathématique qui sont peu fréquentes à l'écran, et on se dit que le montage a dû jouer un rôle très important, même si vous ne coupez pas dans les plans où elle doit écrire plusieurs lignes, hein, vous êtes vraiment sadique, hein, un nouveau vieux, non, je plaisante. Comment est-ce que vous avez vécu ce temps de montage avec Anne Souriau, la monteuse du film? Ce temps-là, c'est quoi pour vous?
Alors, c'était long. C'était 6 mois de montage, donc c'était beaucoup plus long que pour mes précédents films. Ce qui était dur au montage, c'était justement de trouver Marguerite et justement cette zone dont je parlais tout à l'heure, mais qui était en fait difficile à trouver en montage, entre une Marguerite qui est trop fermée et donc finalement pas attachante et trop obscure et où on n'arrive pas à être en empathie avec elle, et à des moments, le côté trop émotionnel prenait trop de place, et du coup, on comprenait pas que c'était un personnage qui soit si fermé, quoi. Qui se protégeait. Et donc, c'était trouver cette zone intermédiaire où, à la fois, on est en connexion avec elle, et en même temps, on comprend que c'est un personnage qui se protège, en fait, qu'on comprend que c'est un personnage avec qui on peut être en empathie parce qu'il se protège du monde, mais c'est parce qu'il y a de la peur derrière tout ça. Et je crois que c'était ça qui était difficile pour avec Anne, c'était de trouver cette zone-là et de rendre Marguerite super attachante dès la première image, quoi.
Elle l'est, on va pouvoir le découvrir dès demain en DVD et en Blu-ray puisque ça sort, votre film, Le Théorème de Marguerite, sort chez Pyramide Vidéo. Merci beaucoup, Alain Auvion,
d'avoir
été notre invité.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
En cette fin de semaine, du 7 au 10 mars, les sœurs pianistes Katia et Marielle Labeck investissent la Philharmonie de Paris où elles interpréteront les suites pour deux pianos tirées des 3 opéras, d'après Cocteau, que Philippe Glass a composé entre 1993 et 1996. Cette production a lieu simultanément à la parution d'un album, Cocteau Trilogie, sur le label Deutsche Grammophon. L'origine de ce projet remonte à 2021, lorsque les sœurs Labeck ont créé les suites pour deux pianos issus de l'opéra Les Enfants Terribles. Nous en avions parlé avec elles dans cette émission. Le succès de l'enregistrement et des concerts les a ensuite conduit à demander à Michael Riesman, le directeur musical de Philippe Glass Ensemble, de compléter la trilogie en arrangeant des extraits des ouvrages restants, Orphée et La Belle et la Bête. Nous vous proposons d'entendre un extrait de cette dernière pièce, Le Miroir, qui devrait rappeler à certaines et certains les traits effrayants d'un Jean Marais transformé. Thank you. C'était Le Miroir, extrait de La Belle et la Bête de Philip Glass, arrangé pour deux pianos par Michael Riesman et interprété par Katia et Marielle Labeck.
France Culture, Le Grand Tour, Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous pour commencer cette semaine ?
Bonsoir Arnaud, je me trouve ce soir au Franciscaine à Deauville, ce centre culturel qui a ouvert ses portes en 2021 dans un ancien couvent. Je suis ici aujourd'hui parce que c'est le lieu qui accueille depuis samedi une exposition consacrée au peintre Zhao Wuoqi et à son œuvre pleine de souffle et de couleurs. J'ai justement rendez-vous avec la directrice.
Je suis Annie Madévache, je suis la directrice du Musée des Franciscaines.
Merci de nous accueillir ici, dans ce Musée des Franciscaines. Cette exposition, Zhao Wuoqi, inaugure le Festival Normandie Impressionnisme qui fête les 150 ans du mouvement. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous parler un peu de cet événement ?
Le Festival Normandie Impressionniste permet de valoriser toutes les propositions qui sont faites sur le territoire en lien avec l'impressionnisme ou les héritiers de l'impressionnisme, etc. etc. Et donc Zhao Wuoqi a évidemment réalisé un magnifique tableau qui s'appelle « Hommage à Claude Monet ». Qui date de 1991, on se rend compte à quel point Zhao Wuoqi et Claude Monet sont des artistes qui sont passionnés par la nature, passionnés par la lumière. Et quand on voit l'œuvre de Zhao Wuoqi, cet hommage à Claude Monet, on ne peut s'empêcher évidemment de voir l'œuvre qui est aujourd'hui à l'Orangerie, les fameuses nymphéas. Je vais, si vous le voulez, vous emmener à la rencontre de Gilles Chazal, qui est le commissaire de cette exposition. Gilles Chazal, qui est conservateur général et directeur honoraire du Petit Palais à Paris.
Bonjour, je suis Gilles Chazal.
Qui était finalement Zhao Wuoqi, alors dans les grandes lignes, et comment est-ce que ce peintre chinois s'est-il retrouvé en France ?
Donc effectivement, Zhao Wuoqi est chinois, c'est-à-dire qu'il est né à Pékin. Il est né en 1920 et très tôt, il a manifesté la volonté d'être peintre et il a réussi à l'âge de 15 ans à entrer dans une école par concours, dans une des grandes écoles de peinture chinoise à Hangzhou. Et dans cette école, il s'est orienté vers l'art occidental avec la conscience qu'il avait, mais d'autres aussi, que l'art chinois était un peu sclérosé, qu'il fallait le renouveler et qu'une des possibilités de renouvellement venait du regard et de l'intérêt pour l'art occidental. Il a 28 ans quand il arrive à Paris, hein, donc c'est pas un jeune peintre qui entre dans une école pour être formé, donc c'est un enseignant marié qui a 28 ans, qui a une longue pratique déjà derrière lui et qui vient à Paris pour se confronter, donc au-delà des revues qu'il avait consultées, directement à l'art occidental.
Avant de parler peut-être plus particulièrement de quelques œuvres de Zhao Wuoqi, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on va voir dans cette exposition ?
C'est une exposition qui veut montrer ses convictions, sa recherche de souffle, de lumière, de dynamisme, et à travers tous les modes d'expression qu'il a utilisés, la peinture bien sûr, les encres aussi, les aquarelles, la porcelaine, les estampes, la lithographie.
Alors c'est difficile de décrire les toiles de Zhao Wuoqi car elles sont évidemment abstraites mais surtout très riches par leurs couleurs et leurs mouvements. Est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par ce triptyque là qui est au tout début de l'exposition, hommage à Claude Monet ?
Sous nos yeux, vous avez une peinture de 1991 qui s'appelle L'hommage à Monet. Monet, pour différentes raisons, était très présent dans l'esprit de Zhao Wuoqi. Et là, nous avons cet hommage qui est très vaste, un peu comme les grandes toiles des nymphéas de Monet qui se trouvent dans l'Orangerie et qui montrent cette espèce de souffle qui vient comme une réalité de tornade. Sur la gauche, nous avons une sorte de cyclone et le vent qui anime des éléments aquatiques, qui fait exploser toute réalité matérielle. Dès qu'on s'approche et qu'on fait attention, chaque centimètre carré en soi est quasiment une petite peinture. Quand on s'approche des toiles, on se rend compte l'infinitude du travail qu'il pouvait mener. Il passait son temps dans son atelier. Pour lui, la vie, c'était peindre. Comme il disait, peindre, peindre, encore peindre, toujours peindre.
Qu'est-ce que Zawoki découvre finalement avec Claude Monet et les impressionnismes? Qu'est-ce que ça lui ouvre comme horizon?
Il est stimulé par le fait que les impressionnistes ont regardé les paysages, mais sont sortis d'une approche trop académique pour générer une approche beaucoup plus sensible. C'est cette vie que l'on sent chez les peintres impressionnistes dans le regard sur la nature. Il l'a poussé, je dirais, encore plus loin en allant au-delà de la réalité visible. Peut-être se mettre devant cette encre, là aussi, qui est de très grand format. Je l'ai dit, donc, Zawoki est un Chinois. Il a bien sûr, notamment avec l'aide de son grand-père, qui était un ennemi lettré, appris à manier le pinceau, à diluer l'encre. Il a renoncé pendant pas mal d'années à utiliser l'encre de Chine, parce que quand il est arrivé à Paris, il voulait surtout éviter de paraître un Chinois et de faire des chinoiseries, d'être enfermé donc, dans une image réductrice de la tradition dont il était héritier. Pour ne pas perdre le pinceau, si j'ose dire, il s'est mis discrètement à reprendre l'encre de Chine. Et il avait un ami, Henri Michaud, à qui il a montré cela confidentiellement. Et Henri Michaud, lui-même passionné par la Chine et la calligraphie, lui a dit « Mais tu dois absolument, en même temps que les peintures, si tu peux, faire ces grandes encres. Il y a la même puissance, il y a le même souffle. » Et c'est une forme d'expression libre et tout à fait aussi importante que la peinture à l'huile. Nous avons sous les yeux, donc, comme tout à l'heure, l'hommage à Monet, une œuvre d'extrêmement grand format. On est au-delà des pratiques habituelles chinoises, mais qui montre, là encore, la puissance de création. Il a passé 80 ans quand il fait cette œuvre.
Justement, qu'est-ce qu'il y a d'occidental dans la manière dont Zawoki retravaille cette tradition des encres chinoises?
En fait, il y a la tradition chinoise, il est là évidemment par le médium, par toute la technique, ô combien maîtrisée par lui. Et si l'on pense au caractère occidental, cette liberté qu'il a connue en France de découvrir, une fois, toutes les subtilités colorées, les libertés de création des peintres occidentaux, et ce milieu dans lequel il a vécu, qui l'a encouragé, d'une certaine manière, à aller vers l'abstraction, à dépasser tout réel, et en plus, justement, à utiliser les grands formats. Il est allé au début des années 50 aux États-Unis, et là, il a découvert l'usage des très très grands formats, et il les a fait siens, comme on vient de le voir aussi avec l'exemple de Monet, et comme on vient de voir aussi avec cette encre. Donc nous passons devant une tapisserie qui est un des médiums aussi sur lequel son art se trouve. Bien sûr, ce n'est pas lui qui a tissé, il fallait que ce soit vraiment les spécialistes des Gobelins, mais c'est à partir d'une de ses aquarelles. Et par contre, là, nous entrons dans la galerie d'aquarelles. L'aquarelle, il l'a pratiquée quand il était à l'école de Hangzhou. C'est évidemment le support, le papier, le pinceau, les pigments qui sont dilués dans l'eau. Donc c'est tout à fait cousin du travail de l'encre.
On voit en effet dans cette galerie des dizaines d'aquarelles, toutes très colorées, avec du bleu, du vert, du rouge. Qu'est-ce que ces aquarelles nous disent de sa démarche d'artiste?
Un des questionnements de sa démarche, c'est comment peindre le vide. Le vide, c'est cette espèce d'absence dans laquelle le souffle se déploie et génère toute chose. Et avec un mouvement à la fois de création et de dilution. Et c'est ce que ces aquarelles montrent. Le vide est important, aussi bien pour les aquarelles que pour les encres. Et on a dans ce vide les stridences de vert, les stridences de rouge, les stridences de rose, dans celles que nous regardons là. Mais à côté, ce sont des éclats, des éclaboussures, même on pourrait dire, de bleu, de violet. Encore une fois, toutes les couleurs sont là, comme il l'a dit lui-même, oser de nouvelles couleurs. Et donc, ce monde coloré est infini en quelque sorte, et les aquarelles comme les peintures en témoignent.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Eh bien, demain, Arnaud, je serai à Saint-Denis pour le festival de cinéma Regard Satellite. Et merci beaucoup à Marceau Vassy pour la prise de son.
Merci à lui, merci à vous et à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinot, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Roberti.